Chapitre 15, le moine bourru. Toute la colonie était en révolution. Le moine bourru, ce vieil hôte fantastique du couvent sur les ruines duquel s'était élevé le palais d'Amoury, revenait depuis 3 ou 4 jours. Dame Perrine l'avait vu, se promenant la nuit dans les jardins du Grand Nel, vêtue de sa longue robe blanche et marchant d'un pas qui ne laissait aucune trace sur le sol et n'éveillait aucun bruit dans l'air. Comment Dame Perrine, qui habitait le Petit Nel, avait-elle vu le moine bourru se promener à 3 heures du matin dans les jardins du Grand Nel? C'est ce que nous ne pouvons dire qu'en commettant une affreuse indiscrétion, mais nous sommes historiens avant tout et nos lecteurs ont le droit de connaître les détails les plus secrets de la vie des personnages que nous avons mis en scène, surtout quand ces détails doivent jeter un jour si lumineux sur la suite de notre histoire. Dame Perrine, par la disparition de Colombe, par la retraite de Pulchéry devenue désormais inutile et par le départ du prévôt, était restée maîtresse absolue du Petit Nel, car ainsi que nous l'avons dit, le jardinier Rambaud, par mesure d'économie, avait été ainsi que ses aides engagés au service de messire d'Estourville à la journée seulement. Dame Perrine se trouvait donc reine absolue du Petit Nel, mais en même temps reine solitaire, de sorte qu'elle s'ennuyait toute la journée et mourait de peur toute la nuit. Or, elle avisa qu'il y avait pour la journée du moins remède à ce malheur. Ses relations amicales avec Dame Rupert lui ouvraient les portes du Grand Nel. Elle demanda la permission de fréquenter ses voisines, et la permission lui fut accordée avec empressement. Mais en fréquentant ses voisines, Dame Perrine se trouvait naturellement en contact avec ses voisins. Dame Perrine était une grosse mère de 36 ans qui s'en donnait 29. Grosse, grasse, dodue, fraîche encore, avenante toujours, son entrée devait faire événement dans l'atelier où forgeait, taillait, limait, martelait, ciselait 10 ou 12 compagnons, bon vivant, aimant le jeu le dimanche, les vins, les dimanches et fêtes, et le beau sexe toujours. Aussi, 3 de nos vieilles connaissances, au bout de 3 ou 4 jours, étaient-elles atteintes du même trait. C'était le petit Jehan, Simon le Gaucher, l'allemand Hermann. Quant à Ascanio, à Jacques Aubry, à Pagolo, ils avaient échappé au charme, engagés qu'ils étaient ailleurs. Le petit Jehan aimait à la manière de chérubin, c'est-à-dire qu'il était avant tout amoureux de l'amour. Dame Perrine, comme on le comprend bien, était une femme d'un trop grand sens pour répondre à un pareil feu follet. Et Simon le Gaucher offrait un avenir plus certain et promettait une flamme plus durable, mais Dame Perrine était une personne fort superstitieuse. Dame Perrine avait vu faire à Simon le signe de croix de la main gauche. Elle songeait qu'il serait forcé de signer à son contrat de mariage de la main gauche, et Dame Perrine était convaincue qu'un signe de la croix exécuté de la main gauche était plutôt fait pour perdre que pour sauver une âme, de même qu'on ne lui eût pas persuadé qu'un contrat de mariage signé de la main gauche pouvait faire autre chose que de malheureux. Dame Perrine, sans rien dire des causes de sa répugnance, avait donc reçu les premières ouvertures de Simon le Gaucher, de manière à lui ôter toute espérance pour l'avenir. Restait Hermann. Oh, Hermann, c'était autre chose. Hermann n'était point un muguet comme le petit Jehan, ni un disgracié de la nature comme Simon le Gaucher. Hermann avait dans toute sa personne quelque chose d'honnête, de candide, qui plaisait au cœur de Dame Perrine. De plus, Hermann, au lieu d'avoir la main gauche à droite et la main droite à gauche, se servait si énergiquement de l'une et de l'autre qu'il semblait avoir 2 mains droites. C'était de plus un homme magnifique, selon toutes les idées vulgaires. Dame Perrine avait donc fixé son choix sur Hermann. Mais, comme on le sait, Hermann était d'une naïveté céladonique. Il en résulta que les premières batteries de Dame Perrine, c'est-à-dire les minauderies, les froncements de bouche, les tournements de regard, échouèrent complètement contre la timidité native de l'honnête Allemand. Il se contentait de regarder Dame Perrine de ses gros yeux. Mais, comme les aveugles de l'Évangile, oculos abebat et non videbat, ou, s'il voyait, c'était tout l'ensemble de la digne gouvernante, sans remarquer en rien les détails. Dame Perrine proposa alors des promenades, soit sur le quai des Augustins, soit dans les jardins du Grand et du Petit Nel, et dans chaque promenade elle choisit Hermann pour son cavalier. Cela rendait Hermann fort heureux intérieurement. Son gros cœur tudesque battait 5 ou 6 pulsations de plus à la minute, quand Dame Perrine s'appuyait sur son bras. Mais soit qu'il éprouvât quelques difficultés à prononcer la langue française, soit qu'il eût un plus grand plaisir à entendre parler l'objet de ses secrètes pensées, Dame Perrine en tirait rarement autre chose que ces deux phrases sacramentelles « Bonjour, mademoiselle » et « Adieu, mademoiselle » qu'Hermann prononçait généralement à 2 heures de distance l'une de l'autre, la première en prenant le bras de Dame Perrine, la seconde en le quittant. Or, quoique ce titre de « mademoiselle » fût une immense flatterie pour Dame Perrine, et quoiqu'il y eût quelque chose de bien agréable à parler 2 heures entières sans crainte d'être interrompu, Dame Perrine eût désiré que son monologue fût au moins interrompu par quelques interjections qui puissent lui donner une idée statistique des progrès qu'elle faisait dans le cœur de son muet promeneur. Mais ces progrès, pour ne pas s'exprimer par la parole ou par ne pas se traduire par la physionomie, n'en était pas moins réel. Le foyer brûlait au cœur de l'honnête Allemand, et attisé tous les jours par la présence de Dame Perrine, devenait un véritable volcan. Hermann commençait à s'apercevoir enfin de la préférence que lui accordait Dame Perrine, et il n'attendait qu'un peu plus de certitude pour se déclarer. Dame Perrine comprit cette hésitation. Un soir, en le quittant à la porte du Petit Nel, elle le vit si agité qu'elle crut véritablement faire une bonne œuvre en lui serrant la main. Hermann, transporté de joie, répondit à la démonstration par une démonstration pareille, mais, à son grand étonnement, Dame Perrine jeta un cri formidable. Hermann, dans son délire, n'avait pas mesuré sa pression. Il avait cru que plus il serrerait fort, plus il donnerait une idée exacte de la violence de son amour, et il avait failli écraser la main de la pauvre gouvernante. Au cri qu'elle poussa, Hermann demeura stupéfait. Mais Dame Perrine, craignant de le décourager au moment où il venait de risquer sa première tentative, prit sur elle de sourire et, décollant ses doigts, momentanément palmés, « Ce n'est rien, dit-elle, ce n'est rien, mon cher monsieur Hermann, ce n'est rien, absolument rien. » « Mille pardons, mademoiselle Perrine, dit l'Allemand, mais c'est être que j'aime vous beaucoup fort et je vous ai serré comme je vous aime, mille pardons. » « Il n'y a pas de quoi, monsieur Hermann, il n'y a pas de quoi. Votre amour, je l'espère, est un amour honnête et dont une femme n'a point à rougir. »« Oh Dieu !» dit Hermann. « Je crois bien, mademoiselle Perrine, qu'il est honnête, mon amour. Seulement, je n'ai pas encore osé vous en parler. Mais puisque le mot est lâché, je vous aime, je vous aime, je vous aime beaucoup fort, mademoiselle Perrine. » Et moi, monsieur Hermann, dit Dame Perrine en minaudant, je crois pouvoir vous dire, car je vous crois un brave jeune homme incapable de compromettre une pauvre femme, que, mon Dieu, comment dirais-je cela? Oh, tite, tite! S'écria Hermann. Eh bien que, oh, j'ai tort de vous l'avouer. Ah, nein, nein, vous pavre d'or, tite, tite! « Eh bien, je vous avoue que je ne suis pas restée indifférente à votre passion. »« Sacrament !» s'écria l'Allemand au comble de la joie. Or, un soir qu'à la suite d'une promenade, la Juliette du Petit Nel avait reconduit son Roméo jusqu'au perron du Grand, elle aperçut, en revenant seule et en passant devant la porte du jardin, la blanche apparition que nous avons racontée et qui, selon l'avis de la digne gouvernante, ne pouvait être autre que celle du moine bourru. Il est inutile de dire que Dame Perrine était rentrée mourante de peur et s'était barricadée dans sa chambre. Le lendemain, dès le matin, tout l'atelier fut instruit de la vision nocturne. Seulement, Dame Perrine raconta le fait simple, jugeant inutile de s'apesantir sur les détails. Le moine bourru lui était apparu, voilà tout. On eut beau la questionner, on n'en put tirer autre chose. Toute la journée, il ne fut question au Grand Nel que du moine bourru. Les uns croyaient à l'apparition du fantôme, les autres s'en moquaient. On remarqua qu'Ascanio avait pris parti contre la vision et s'était fait chef des incrédules. Le parti des incrédules se composait du petit Jehan, de Simon le Gaucher, de Jacques Aubry et d'Ascanio. Le parti des croyants se composait de Dame Rupert, de Scotson et de Pagolo et de Herman. Le soir, on se réunit dans la seconde cour du Petit Nel. Dame Perrine, interrogée le matin sur l'origine du moine bourru, avait demandé toute la journée pour rassembler ses souvenirs, et la nuit venue, elle avait déclaré qu'elle était prête à raconter cette terrible légende. Dame Perrine connaissait sa mise en scène comme un dramaturge moderne, et elle savait qu'une histoire de revenant perd tout son effet raconté à la lumière du soleil, tandis qu'au contraire, l'effet de la narration se double dans l'obscurité. Son auditoire se composait d'Hermann, qui était assis à sa droite, de Dame Rupert, qui était assise à sa gauche, de Pagolo et de Scotson, qui étaient assis à côté l'un de l'autre, et de Jacques Aubry, qui était couché sur l'herbe entre ses deux amis, le petit Jehan et Simon le Gaucher. Quant à Ascanio, il avait déclaré qu'il méprisait tellement tous ces sots contes de bonnes femmes qu'il ne voulait pas même les entendre. « Ainsi, dit Hermann, après un moment de silence pendant lequel chacun prenait ses petits arrangements pour écouter plus à l'aise, « Mademoiselle Perrine, vous allez nous raconter l'histoire du moine pourru. » « Oui, oui, dit Dame Perrine, oui, mais je dois vous prévenir que c'est une terrible histoire, qu'il ne fait pas bon peut-être raconter à cette heure. Mais comme nous sommes toutes des personnes pieuses, quoi qu'il y ait parmi nous des incrédules, et que d'ailleurs M. Hermann est de force à mettre en fuite Satan lui-même, si Satan se présentait, je vais vous raconter cette histoire. » Ah, « Partons, partons, mademoiselle Perrine, mais si Satan fient, je dois vous dire qu'il ne faut pas compter sur moi, je me pâtrai avec tes hommes tant que vous foutrez mes bas avec le diable. »« Eh bien, c'est moi qui me battrai avec lui s'il vient, dame Perrine, dit Jacques Aubry, allez toujours, et n'ayez pas peur. » « Y a-t-il un charbonnier dans votre histoire, mademoiselle Perrine, dit Hermann. » « Un charbonnier, demanda la gouvernante. « Non, monsieur Hermann. » « Oh, bien, c'est égal. » Pourquoi un charbonnier, dites ? C'est que dans les histoires d'Allemagne, il y a toujours un charbonnier, mais n'importe, ce doit être une belle histoire tout de même. Allez, mademoiselle Perrine, allez. Sachez donc, dit Dame Perrine, qu'il y avait autrefois, sur l'emplacement même où nous sommes, et avant que l'hôtel de Nel ne fût bâti, une communauté de moines composée des plus beaux hommes que l'on pût voir, et dont le plus petit était de la taille de Monsieur Hermann. « Peste, quelle communauté !» s'écria Jacques Aubry. « Taisez-vous donc, bavard, » dit Scotson, et « Oui, taisez-vous donc, pafard !» répéta Hermann. « je me tais, » dit l'écolier. « Allez, dame Perrine. » Le prieur nommé Enguerrand, continua la narratrice, était surtout un homme magnifique. Ils avaient tous des barbes noires et luisantes, avec des yeux noirs et étincelants, mais le prieur avait encore la barbe plus noire et les yeux plus éclatants que les autres. Et avec cela, les dignes frères étaient d'une piété et d'une austérité sans pareille, et possédaient une voix si harmonieuse et si douce que l'on venait de plusieurs lieues à la ronde, rien que pour les entendre chanter vêpres. C'est du moins comme cela qu'on m'a raconté. « Ah, ces pauvres moines !» dit Rupert. « C'est très intéressant, » dit Jacques Aubry. « C'est miraculeux !» dit Hermann. Un jour, reprit Dame Perrine, flattée des témoignages d'approbation que soulevait son récit, on amena aux prières un beau jeune homme qui demandait à entrer comme novice dans le couvent. Il n'avait pas de barbe encore, mais il avait de grands yeux noirs comme l'ébène et de longs cheveux sombres et brillants comme du jais, de sorte qu'on l'admit sans difficulté. Le beau jeune homme dit se nommer Antonio et demanda au prieur à être attaché à son service, ce à quoi Don Enguerrand consentit sans difficulté. « Je vous parlais de voix, c'est Antonio qui avait une voix fraîche et mélodieuse. » La conduite du jeune novice était d'ailleurs exemplaire, et il servait le prieur avec un zèle et une ardeur incroyables. Tout ce qu'on pouvait lui reprocher, c'était ses éternelles distractions. Partout et toujours, il suivait le prieur de ses yeux ardents, dont Enguerrand lui disait « Que regardez-vous là, Antonio ?»« Je vous regarde, mon père, » répondait le jeune homme. Regardez votre livre d'oraison, Antonio. Que regardez-vous là encore? Vous, mon père. Antonio, regardez l'image de la Vierge. Que regardez-vous encore là? Vous, mon père. Regardez, Antonio, le crucifix que nous adorons. En outre, Don Enguerrand commençait à remarquer, en faisant son examen de conscience, que depuis la réception d'Antonio dans la communauté, il était plus troublé qu'auparavant par les mauvaises pensées. Le pauvre Don Enguerrand ne savait plus où donner de la tête, et il sentait qu'il se damnait malgré lui, et remarquait, remarque qui eût consolé un autre, mais qui l'épouvantait davantage, que ses plus vertueux moines étaient soumis à la même influence, influence étrange, inouïe, incompréhensible, inconnue. Sur ces entrefaites, un grand bruit qui se faisait depuis un mois dans le pays arriva enfin jusqu'au couvent. Le seigneur d'un château voisin avait perdu sa fille, Antonia. Antonia était disparue un beau soir, absolument comme a disparu la pauvre colombe. Seulement, je suis sûr que ma colombe était un ange, tandis qu'il paraît que cette Antonia était possédée du démon. Le pauvre seigneur avait cherché par monts et par vaux la fugitive, tout comme monsieur le prévôt a cherché Colombe. Il ne restait plus que le couvent à visiter, et sachant que le méchant esprit, pour mieux se dérober aux recherches, a parfois la malice de se cacher dans les monastères, il fit demander par un aumônier à Don Enguerrand la permission de visiter le sien. Le prieur s'y prêta de la meilleure grâce du monde. Peut-être allait-il, grâce à cette visite, découvrir lui-même quelque chose de ce pouvoir magique qui pesait depuis un mois sur lui et ses compagnons. Bah, toutes les recherches furent inutiles et le châtelain allait se retirer, plus désespéré que jamais, quand tous les moines, se rendant à la chapelle pour y dire l'office du soir, vinrent à passer devant lui, et Don Enguerrand. Il les regardait machinalement, lorsqu'au dernier qui passa, il jeta un grand cri en disant « Dieu du ciel, c'est Antonia, c'est ma fille !» Antonia, car c'était elle effectivement, devint pâle comme un lys. « Que fais-tu ici, sous ces habits sacrés ?» continua le châtelain. « Ce que j'y fais, mon père, dit Antonia, j'aime d'amour Don Enguerrand. « Sors de ce couvent, à l'instant même, malheureuse !» s'écria le seigneur. « Je n'en sortirai que morte, mon père, répondit Antonia. » Et là-dessus, malgré les cris du châtelain, elle s'élança dans la chapelle à la suite des moines et prit place à sa stalle accoutumée. Le prieur était resté debout, comme pétrifié. Le châtelain, furieux, voulait poursuivre sa fille, mais Don Enguerrand le supplia de ne pas souiller le lieu saint d'un tel scandale et d'attendre la fin de l'office. Le père y consentit et suivit Don Enguerrand dans la chapelle. On en était aux antiennes et, semblable à la voix de Dieu, l'orgue préludait majestueusement. Un chant admirable, mais ironique, mais amer, mais terrible, répondit au son du sublime instrument. C'était le chant d'Antonia, et tous les cœurs frissonnèrent. L'orgue reprit, calme, grave, imposant, et sembla vouloir écraser par sa magnificence céleste l'aigre clameur qui l'insultait d'en bas. Aussi, comme acceptant le défi, les accents d'Antonia s'élevèrent-ils à leur tour plus furieux, plus désolés, plus impies que jamais. Tous les esprits attendaient éperdus ce qui allait résulter de ce formidable dialogue, de cet échange de blasphèmes et de prières, de cette lutte étrange entre Dieu et Satan. Et ce fut au milieu d'un silence plein de frémissements que la musique céleste éclata comme un tonnerre, cette fois à la fin du verset blasphémateur, et versa sur toutes les têtes inclinées, hormis une seule, les torrents de son courroux. Ce fut quelque chose de pareil à la voix foudroyante qu'entendront les coupables au jour du jugement dernier. Antonia n'en essaya pas moins de lutter encore, mais son chant ne fut cette fois qu'un cri aigu, affreux, déchirant, semblable à un rire de damné, et elle tomba, pâle et raide, sur le pavé de la chapelle. Quand on la releva, elle était morte. « Jésus-Maria !» s'écria Dame Rupert. Quand le prieur, reprit Dame Ruperte, vit l'envoyé du diable ainsi pulvérisé par la colère de Dieu, il se crut, le pauvre cher homme, délivré à jamais des pièges du tentateur, mais il comptait sans son hôte, comme c'est plus que jamais le cas de le dire, puisqu'il avait eu l'imprudence de donner l'hospitalité à une possédée du démon. Aussi, la nuit suivante, comme il venait à peine de s'endormir, il fut réveillé par un bruit de chaîne. Il ouvrit les yeux, les tourna instinctivement vers la porte, vit la porte tourner toute seule sur ses gonds, et, en même temps, un fantôme, vêtu de la robe blanche des novices, approcha de son lit, le prit par le bras et lui cria « Je suis Antonia, Antonia qui t'aime, et Dieu m'a donné tout pouvoir sur toi, parce que tu as péché, sinon par action, du moins par pensée. » Et chaque nuit, à minuit, comme de raison, la terrible apparition revint, implacable et fidèle, tant qu'à la fin, Don Enguerrand prit le parti de faire un pèlerinage en Terre Sainte, et mourut, par grâce spéciale de Dieu, au moment où il venait de s'agenouiller devant le Saint-Sépulcre. Mais Antonia n'était point satisfaite. Elle se rejeta alors sur tous les moines en général, et comme il y en avait bien peu qui n'eussent point péché, comme le pauvre prieur, elle vint à leur tour les visiter pendant la nuit, les réveillant brutalement et leur criant d'une voix formidable « Je suis Antonia, je suis Antonia qui t'aime !» De là le nom du moine bourru. Quand vous marcherez le soir dans la rue et qu'un capuchon gris ou blanc s'attachera à vos pas, hâtez-vous de rentrer chez vous, c'est le moine bourru qui cherche une proie. Le couvent détruit, pour faire place au château, on crut être débarrassé du moine bourru, mais il paraît qu'il affectionne la place. À différentes époques il a reparu, et voilà, que le Seigneur nous pardonne, que le malheureux damné reparaît encore. Que Dieu nous préserve de sa méchanceté. Le lendemain, qui était le jour même où toute la cour devait revenir de Fontainebleau, ce fut Dame Ruperte qui déclara au même auditoire qu'elle avait une grande révélation à faire à son tour. Aussi, comme on s'en doute bien, après un avis si intéressant, tout le monde fut réuni à la même heure et au même endroit. Or voici ce que Ruperte avait à raconter. Le récit de Dame Perrine lui avait trotté toute la nuit dans la tête, et une fois rentrée dans sa chambre, elle trembla de tout son corps que, malgré les saints reliquaires dont le chevet de son lit était garni, le fantôme d'Antonia ne vint la visiter. Ruperte barricada sa porte, mais c'était une médiocre précaution. La vieille gouvernante était trop au courant des habitudes des fantômes pour ignorer que les esprits ne connaissent pas de porte fermée. Elle aurait néanmoins voulu barricader aussi la fenêtre qui donnait sur le jardin du Grand Nel, mais le propriétaire primitif avait oublié d'y faire mettre des contrevents, et le propriétaire actuel avait jugé inutile de se grever de cette dépense. Il y avait bien ordinairement des rideaux, mais cette fois, par chance contraire, les rideaux étaient au blanchissage. Ruperte se coucha donc, mais elle laissa brûler sa lampe. À peine au lit, elle jeta les yeux sur la fenêtre, et devant la fenêtre, elle vit une ombre gigantesque qui se dessinait dans la nuit et qui lui interceptait la lumière des étoiles. Quant à la lune, il n'en était pas question, elle entrait dans son dernier quartier. La bonne Ruperte tressaillit de crainte, et elle était sur le point de crier ou de frapper lorsqu'elle se souvint de la statue colossale de Mars qui s'élevait juste devant sa fenêtre. Elle reporta aussitôt les yeux, qu'elle avait détournés déjà, du côté de la fausse apparition, et elle reconnut parfaitement tous les contours du dieu de la guerre. Cela rassura momentanément Ruperte, qui prit la résolution positive de s'endormir. Mais, comme toute chose humaine, la lampe eut sa fin 2 heures après que Ruperte eut clos ses yeux du sommeil du juste. La lampe, sous prétexte qu'elle n'avait plus d'huile, commença de faiblir, puis elle pétilla, puis elle jeta une grande lueur, puis enfin elle mourut. Juste en ce moment, Ruperte faisait un rêve terrible. Elle rêvait qu'en revenant le soir de chez Dame Perrine, elle avait été poursuivie par le moine bourru. Rupert s'était donc réveillé, les cheveux hérissés et tout humide d'une sueur glacée. Ses yeux s'étaient ouverts, hagards et effarés, et s'étaient portés, malgré elle, sur la fenêtre. Alors elle avait poussé un cri terrible, et voici ce qu'elle avait vu. Elle avait vu la tête du dieu Mars, colossal, jetant du feu par les yeux, par le nez, par la bouche et par les oreilles. Elle avait cru d'abord qu'elle était encore endormie et que c'était son rêve qui se continuait. Mais elle s'était pincée au sang pour s'assurer qu'elle était bien éveillée. Elle avait fait le signe de la croix et avait dit mentalement trois pater et deux ave, et la monstrueuse apparition n'avait point disparu. Rupert trouva la force d'étendre le bras, de prendre le manche de son balai et de frapper de toute sa force au plafond. Hermann couchait au-dessus d'elle, et elle espérait que le vigoureux Allemand, réveillé par cet appel, accourrait à son secours. Mais Rupert eut beau frapper, Hermann ne donna aucun signe d'existence. Alors elle changea de direction, et au lieu de frapper au plafond pour réveiller Hermann, elle frappa au plancher pour réveiller Pagolo. Pagolo couchait au-dessous de Rupert comme Hermann couchait d'au-dessus. Mais Pagolo fut aussi sourd qu'Hermann, et Dame Rupert eut beau frapper, rien ne bougea. Rupert abandonna alors la ligne verticale pour la ligne horizontale. Ascanio était son voisin, et elle frappa du manche de son balai contre le mur de séparation. Mais tout resta muet chez Ascanio, comme tout était resté muet chez Pagolo et chez Hermann. Il était évident qu'aucun des trois compagnons n'était chez lui. Un instant, Rupert eut l'idée que le moine bourru les avait emportés tous les trois. Or, comme cette idée n'avait rien de rassurant, Rupert, de plus en plus épouvantée, et certaine que personne ne pouvait venir à son secours, prit le parti de cacher sa tête sous ses draps et d'attendre. Elle attendit une heure et demie, deux heures peut-être, mais comme elle n'entendait aucun bruit, elle reprit quelque peu de hardiesse, écarta doucement son drap, hasarda un œil, puis les deux. La vision avait disparu, la tête de Mars s'était éteinte, tout était rentré dans les ténèbres. Or voilà ce que raconta Rupert, et il faut le dire, à l'honneur de la narratrice, son récit fit plus d'effet encore peut-être que n'en avait fait celui de la veille. L'impression fut profonde, surtout sur Hermann et Dame Perrine, sur Pagolo et Scotzone. Les deux hommes s'excusèrent de ne pas avoir entendu Rupert, mais d'une voix si tremblante et d'une façon si embarrassée que Jacques Aubry en éclata de rire. Quant à Dame Perrine et à Scotzone, elles ne soufflèrent pas même un mot. Seulement, elles devinrent tour à tour si rouges et si blêmes que s'il avait fait jour et qu'on eût pu suivre sur leur visage le reflet de ce qui se passait dans leur âme, on eût pu croire en moins de 10 secondes qu'elles allaient mourir d'un coup de sang, puis presque aussitôt trépasser d'inanition. Jacques Aubry haussa les épaules, mais tout en haussant les épaules, il résolut d'approfondir le mystère. Or, c'était la chose du monde la plus facile pour lui, qui entrait et qui sortait aussi familièrement que s'il eût été de la maison. Il arrêta donc dans son esprit qu'il irait voir Gervaise le lendemain, mais ce soir il resterait au Grand Nel jusqu'à 10 heures. À 10 heures, il prendrait congé de tout le monde, ferait semblant de sortir, resterait en dedans, monterait sur un peuplier et de là, caché dans les branches, ferait connaissance avec le fantôme. Tout se passa comme l'écolier l'avait projeté. Pendant le temps que Jacques Aubry s'établissait sur son perchoir, il y avait grande soirée au Louvre, dont toutes les fenêtres flamboyaient. Charles Quint s'était enfin décidé à quitter Fontainebleau et à se risquer dans la capitale, et comme nous l'avons dit, les deux souverains étaient rentrés le soir même à Paris. Là, une fête splendide attendait encore l'empereur. Il y avait souper, jeux et bal. Au nombre de ses convives avait été, tout naturellement, le vicomte de Marmagne. Comme celui-ci rentrait chez lui, il entendit marcher derrière lui. Or, au nombre des qualités morales dont la nature avait doué Marmagne, le courage ne jouait pas le principal rôle. Il commença donc à aller d'une marche de plus en plus rapide, lorsqu'au bruit des pas se mêla le bruit d'une voix. Pardon, mon gentilhomme, vous faites bien de hâter la marche. La place n'est pas bonne, et notre ami Benvenuto s'y est fait attaquer. Marchons donc ensemble. Marmagne reconnut le bavard basochien qui, une fois déjà, lui avait donné de si utiles renseignements sur le Grand Nel. Il s'arrêta donc, car la société de maître Aubry offrait double avantage. L'écolier lui servait d'escorte et pouvait aussi lui donner sur son ennemi quelques renseignements nouveaux. « Bonsoir, cher ami, dit-il. Que disiez-vous donc de ce bon Benvenuto ?»« Ah, ah, mon cher, je viens de voir des choses. Pauvre Benvenuto, il ne méritait pas cela. »« Que lui est-il donc arrivé, à ce cher ami ?»« D'abord, si vous venez du Louvre, il faut que vous sachiez, vous, que je viens du Grand Nel, où j'ai passé 2 heures, perché sur une branche, ni plus ni moins qu'un perroquet. »« Diable, la position n'est pas commode. » N'importe, n'importe. Je ne regrette pas la crampe que j'y ai prise, car j'ai vu des choses, mon cher, j'ai vu des choses. Tenez, rien que d'y penser, j'en suffoque de rire. Et Jacques Aubry se mit en effet à éclater d'un rire si jovial et si franc que, quoique Marmagne ne sût pas encore de quoi il était question, il ne put s'empêcher de faire chorus. Mais comme il ignorait la cause de la gaieté du basochien, le vicomte cessa naturellement de rire le premier. « Maintenant, mon cher ami, maintenant qu'entraîné par votre hilarité, j'ai ri de confiance, dit Marmagne, ne puis-je apprendre de vous quelle chose si mirobolante vous tienne en joie ? Vous savez que je suis des fidèles de Benvenuto, quoique je ne vous ai jamais rencontré chez lui, attendu que mes occupations me laissent bien peu de temps à donner au monde, et que ce peu de temps, je dois l'avouer, j'aime mieux l'accorder à mes maîtresses qu'à mes amis. Mais il n'en est pas moins vrai que tout ce qui le touche me touche, ce cher Benvenuto. Dites-moi donc ce qui se passe au Grand Nel en son absence. Cela m'intéresse, je vous jure, plus que je ne puis vous l'exprimer. Ce qui se passe, dit Aubry, ah, mais non, c'est un secret. Un secret pour moi, dit Marmagne, un secret pour moi qui aime Benvenuto de si grand cœur, et qui encore ce soir renchérissait sur les éloges que lui donnait le roi François Ier. Oh, c'est mal, dit Marmagne, d'un air piqué. Si j'étais sûr que vous n'en parliez à personne, mon cher... Comment diable vous appelez-vous donc, mon cher ami? Je vous conterai cela, car je vous avoue que je suis aussi pressé de dire mon histoire que l'étaient les roseaux du roi Midas de conter la leur. Dites donc, alors, dites donc, répéta Marmagne. Vous n'en parlerez à personne. En personne, je vous le jure. Parole d'honneur, foi de gentilhomme. Imaginez-vous donc, mais d'abord, mon cher ami, vous connaissez l'histoire du moine bourru, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu parler de cela, un fantôme qui revient dans le Grand Nel, à ce qu'on assure. Justement, eh bien, si vous savez cela, je puis vous dire le reste. Imaginez-vous donc que Dame Perrine, la gouvernante de Colombe, justement, allons, allons, on voit bien que vous êtes des amis de la maison. Imaginez-vous donc que Dame Perrine, dans une promenade nocturne qu'elle faisait pour sa santé, a cru voir se promener aussi le moine bourru dans les jardins du Grand Nel, tandis qu'en même temps, Dame Rupert, vous connaissez Dame Rupert, n'est-ce pas la vieille servante de Cellini? Justement. Tandis que Dame Rupert, dans une de ses insomnies, avait vu flamboyer les yeux, le nez et la bouche de la grande statue du dieu Mars que vous avez vue dans le jardin du Grand Nel. Oui, un véritable chef-d'œuvre, dit Marmagne. Chef-d'œuvre, c'est le mot. Cellini n'en fait pas d'autre. Or, il avait été arrêté entre ces deux respectables personnes, c'est de Dame Perrine et de Dame Rupert que je parle, que ces deux apparitions avaient une même cause et que le démon qui se promenait la nuit sous le costume du moine bourru dans le jardin remontait au chant du coq dans la tête du dieu Mars, digne asile d'un damné comme lui, et là était brûlé de si terribles flammes que le feu en sortait par les yeux, par le nez et par les oreilles de la statue. « Que diable de conte me faites-vous là, mon cher ami ?» dit Marmagne, ne sachant si l'écolier raillait ou parlait sérieusement. « Un conte de revenant, mon cher, pas autre chose. »« Est-ce qu'un garçon d'esprit comme vous, dit Marmagne, peut croire à de pareilles niaiseries ?»« « Mais non, je n'y crois pas, dit Jacques Aubry aussi. Voilà pourquoi j'ai voulu passer la nuit sur un peuplier pour tirer la chose au clair et voir quel était le véritable démon qui mettait tout l'hôtel en révolution. J'ai donc fait semblant de sortir, mais au lieu de refermer la porte du grand nez derrière moi, je l'ai refermée devant, je me suis glissé dans l'obscurité sans être vu de personne, j'ai gagné le peuplier sur lequel j'avais jeté mon dévolu, et 5 minutes après j'étais juché au milieu de ses branches, juste à la hauteur de la tête du dieu Mars. Or devinez ce que j'ai vu. Comment voulez-vous que je devine, dit Marmagne. Je vis la porte s'ouvrir et un homme mettre le nez dehors pour voir s'il n'y avait personne dans la cour. Cet homme, c'était Hermann, le gros Allemand. Oui, Hermann, le gros Allemand, répéta Marmagne. Lorsqu'il se fut bien assuré que la cour était solitaire et qu'il eut regardé de tous les côtés, excepté sur l'arbre, où, comme vous le pensez bien, il était loin de me soupçonner, il sortit tout à fait, referma la porte derrière lui, descendit les 5 ou 6 marches du perron et s'en alla droit à la cour du petit nez où il frappa 3 coups. À ce signal, une femme sortit du petit nez et vint ouvrir la porte. Cette femme, c'était Dame Perrine, notre amie, laquelle, à ce qu'il paraît, aime à se promener à la belle étoile en compagnie de notre Goliath. Ah, vraiment, ah, ce pauvre prévôt. Attendez donc, ce n'est pas tout. Je les suivais des yeux, comme ils entraient au petit nez, lorsque tout à coup j'entends, à ma gauche, crier le châssis d'une fenêtre. Je me retournai, la fenêtre s'ouvrit, et je vis Pagolo. Ah, ce brillant de Pagolo! Qui est-ce qui aurait cru cela de sa part avec ses protestations, ses patères et ses aves? Et je vis Pagolo, qui, après avoir regardé avec les mêmes précautions qu'Hermann, enjambait la balustrade, se laissait glisser le long de la gouttière, et de balcon en balcon gagnait le bas de la fenêtre. Devinez de quelle chambre, vicomte? Que sais-je, moi? La fenêtre de la chambre de Dame Rupert? Ah, bien oui, de Scotson, et rien que cela, de Scotson, et le modèle bien-aimé de Benvenuto, une charmante brune, ma foi. Comprenez-vous ce coquin-là, vicomte? En effet, c'est fort drôle, dit Marmagne. Et voilà tout ce que vous avez vu. Attendez encore, attendez. Je regardais donc mon Pagolo, qui courait de balcon en balcon, au risque de se casser le cou, lorsque j'entendis un autre bruit qui venait presque du pied de l'arbre sur lequel j'étais monté. Je ramenai les yeux de haut en bas et j'aperçus Ascanio qui sortait à pas de loup de la fonderie. Ascanio, l'élève chéri de Benvenuto, lui-même, mon cher lui-même, une espèce d'enfant de cœur à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Ah bien oui, fiez-vous donc aux apparences. Et dans quel but sortait Ascanio? Voilà dans quel but, voilà ce que je me demandais d'abord, mais bientôt je n'eus plus rien à demander, car Ascanio, après s'être assuré, comme Hermann et comme Pagolo, que personne ne pouvait le voir, tira de sa fonderie une longue échelle qu'il alla appuyer contre les 2 épaules du dieu Mars et sur laquelle il monta. Comme l'échelle était juste du côté opposé à celui où j'étais, je le perdis de vue au milieu de son ascension, lorsqu'au moment même où je cherchais ce qu'il pouvait être devenu, je vis tout à coup s'enflammer les yeux de la statue. « Que dites-vous donc là ? » s'écria Marmagne. « La vérité pure, mon cher, et j'avoue que si cela s'était fait sans que je connusse les antécédents que je viens de raconter, je ne me serais peut-être pas trouvé et tout à fait à mon aise, mais j'avais vu disparaître Ascanio, et je me doutais que c'était lui qui causait cette lumière. Mais qu'allait faire Ascanio à cette heure dans la tête du dieu Mars? Ah, voilà justement ce que je me demandais, et comme personne ne pouvait me répondre, je résolus de découvrir la chose par moi-même. Je m'écarquillai les yeux de toutes mes forces, et je parvins à découvrir à travers ceux de la statue un esprit, ma foi, tout vêtu de blanc, un fantôme de femme, au pied duquel Ascanio s'agenouilla respectueusement comme devant une madone. Malheureusement, la madone me tournait le dos et je ne pus voir son visage, mais je vis son col. Oh, le joli col qu'ont les fantômes, mon cher vicomte, un col de cygne, figurez-vous, blanc comme la neige. Aussi Ascanio le regardait-il avec adoration, l'impie, avec une adoration qui me convainquit que le fantôme était tout bonnement une femme. Qu'en dites-vous, mon cher, hein, le tour est bon, cacher sa maîtresse dans la tête d'une statue. « Oui, oui, c'est original, » dit Marmagne, riant et réfléchissant tout à la fois. « Très original, en effet. Et vous ne vous doutez pas quelle peut être cette femme ?»« Sur l'honneur, je n'en ai aucune idée. Et vous ?»« Ni moi non plus. Et vous voudriez que je vous donnasse mon avis sur ce qui vous reste à faire ?» Oui, d'honneur, je suis fort embarrassé, mon cher, j'oublie toujours votre nom. » Mon avis est qu'il faut garder le silence, tant pis pour les gens qui sont assez niais pour se laisser tromper. Maintenant, mon cher Jacques Aubry, je vous remercie de votre bonne société et de votre aimable conversation, mais me voilà arrivé rue Hautefeuille, et confidence pour confidence, c'est là que demeure mon objet. « Adieu, mon tendre, mon cher, mon excellent ami, » dit Jacques Aubry en serrant la main du vicomte. « Votre avis est sage, et je le suivrai. Maintenant, bonne chance, et que Cupidon veille sur vous !» Les deux compagnons se séparèrent alors, Marmagne remontant la rue Hautefeuille et Jacques Aubry prenant la rue Poupée pour regagner la rue de la Harpe, à l'extrémité de laquelle il avait fixé son domicile. Le vicomte avait menti au malencontreux basochien en affirmant qu'il n'avait aucun soupçon sur ce que pouvait être le démon femelle qu'adorait à genoux Ascanio. L'indécision de Marmagne ne fut pas longue. Il savait, sans en connaître le véritable motif, l'intérêt que Madame d'Étampes prenait au mariage du comte d'Orbec avec Colombe. Il pensa que la révélation lui ferait, du côté de la perspicacité, regagner dans l'esprit de la duchesse ce qu'il avait perdu du côté du courage. Il résolut donc, le lendemain, à son lever, de se présenter chez elle et de tout lui dire, et cette résolution prise, il l'exécuta ponctuellement. Par un de ces hasards heureux qui servent quelquefois si bien les mauvaises actions, tous les courtisans étaient au Louvre, et ils faisaient leur cour à François Ier et à l'empereur, et Madame d'Étampes n'avait près d'elle à son lever que ses deux fidèles, c'est-à-dire le prévôt et le comte d'Orbec, lorsqu'on annonça le vicomte de Marmagne. Le vicomte salua respectueusement la duchesse, laquelle ne répondit à ce salut que par un de ces sourires qui n'appartenaient qu'à elle et dans lesquels elle savait confondre à la fois l'orgueil, la protection et le dédain. Mais Marmagne ne s'inquiéta point de ce sourire, qu'il connaissait au reste pour l'avoir vu passer sur les lèvres de la duchesse non seulement pour son compte à lui, mais encore pour le compte de bien d'autres. Il savait au reste le moyen de transformer par une seule parole ce sourire de mépris en un sourire plein de grâce. « Eh bien, messire d'Estourville, » dit-il en se retournant vers le prévôt, « l'enfant prodigue est-il revenu à la maison ?»« Encore cette plaisanterie, vicomte !» s'écria messire d'Estourville avec un geste menaçant et en rougissant de colère. « Oh, ne vous fâchez pas, mon digne ami, ne vous fâchez pas, » répondit Marmagne. « Je vous dis cela parce que, si vous n'avez pas retrouvé encore la colombe envolée, je sais, moi, où elle a fait son nid. »« Vous ?» s'écria la duchesse avec l'expression de la plus charmante amitié. « Et où cela ? Vite, vite, je vous en prie, dites, mon cher Marmagne. » Dans la tête de la statue de Mars que Benvenuto a modelée dans le jardin du Grand Nel. Le lecteur, comme Marmagne, a sans doute deviné la vérité, si étrange qu'elle paraisse au premier abord, c'était la tête du colosse qui servait d'asile à Colombe. Mars logeait Vénus, ainsi que l'avait dit Jacques Aubry. Tel avait été le conseil de Cellini à Colombe, ce soir d'automne, où il avait décidé de faire le bonheur des deux amoureux. « Voulez-vous, Colombe, sûre de notre loyauté et de votre innocence, quitter hardiment votre maison et nous suivre ?» Ascanio avait eu un mouvement de surprise. Colombe avait dit simplement « Où faut-il aller ?» L'orfèvre avait alors mené Colombe au pied de la statue, avait dressé une échelle contre le colosse, et là, il avait pris Colombe dans ses bras, il avait monté jusqu'au col de la statue. Il avait alors ouvert une petite porte, était entré dans la statue de Mars et y avait déposé Colombe. L'intérieur de cette tête colossale d'une statue qui avait près de 60 pieds de haut formait une petite chambre ronde qui pouvait avoir 8 pieds de diamètre et 10 pieds de hauteur. L'air et le jour y pénétraient par les ouvertures des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles. Cette chambrette avait été pratiquée par Cellini lorsqu'il travaillait à la tête, et il y enfermait les instruments dont il se servait journellement afin de n'avoir pas la peine de les monter et de les descendre 5 ou 6 fois par jour. Souvent aussi, il emportait son déjeuner avec lui, le dressait sur une table qui tenait le milieu de cette singulière salle à manger, de sorte qu'il ne quittait pas même son échafaudage pour son repas du matin. Cette innovation, qui lui était si commode, l'avait mis en goût. Après la table, il avait transporté une espèce de petit lit, et dans les premiers temps, non seulement il déjeunait dans la tête de son Mars, mais encore il y faisait sa sieste. Il était donc tout simple que l'idée lui fût venue de transporter Colombe dans la cachette, la plus sûre évidemment de toutes celles qu'il pouvait offrir. « C'est ici qu'il faudra rester, Colombe, » dit Benvenuto, « et vous devez, ma chère enfant, vous résigner à ne descendre que la nuit. » Il tendit la main à Colombe, mais la jeune fille lui présenta son front comme elle avait l'habitude de le faire à son père. Benvenuto tressaillit, mais passant sa main devant ses yeux et maîtrisant à la fois les pensées qui se pressaient dans son esprit et les passions qui bouillonnaient dans son cœur, il déposa sur ce front le plus paternel des baisers, murmurant à demi-voix « Adieu, chère fille !» Et il redescendit promptement vers Ascanio qui l'attendait, et tous deux allèrent rejoindre paisiblement les ouvriers qui ne mangeaient plus mais qui buvaient encore. Une nouvelle vie, étrange, inouïe, commença alors pour Colombe, et elle s'en arrangea comme d'une existence de reine. Voici comment fut meublée la chambre aérienne. Elle avait déjà, comme on le sait, un lit et une table. Ascanio y ajouta une chaise basse en velours, une glace de Venise, une bibliothèque composée de livres de piété que désigna elle-même Colombe, un crucifix, merveille de ciselure, enfin un flacon d'argent, aussi du maître, et dont chaque soir on renouvelait les fleurs. Colombe dormait ordinairement le jour, Ascanio le lui avait conseillé, de peur qu'un mouvement involontaire ne la trahît. Elle s'éveillait avec la lueur des étoiles et le chant des rossignols, s'agenouillait sur son lit devant son crucifix, et restait longtemps absorbée dans une fervente prière. Puis elle faisait sa toilette, peignait ses beaux et longs cheveux, et rêvait. Alors une échelle se posait contre la statue, et Ascanio venait frapper à la petite porte. Si la toilette de Colombe était achevée, elle ouvrait à son amie, qui restait auprès d'elle jusqu'à minuit. À minuit, si le temps était beau, Colombe descendait, Ascanio rentrait au grand nez et dormait quelques heures, tandis que Colombe faisait sa promenade nocturne. Un peu avant l'aube, Ascanio revenait voir sa fiancée et lui apportait ses provisions du jour, adroitement dérobées à Dame Rupert grâce à la complicité de Cellini. Alors commençaient de bonnes et ravissantes causeries, souvenirs d'amants, projets d'époux. Quelquefois aussi, Ascanio restait silencieusement en contemplation devant son idole, et Colombe se laissait regarder en lui souriant. Jamais un mot d'Ascanio n'effraya la timide et pure enfant qu'il appelait son frère. Ils étaient seuls, ils s'aimaient, mais justement, parce qu'ils étaient seuls, ils sentaient mieux la présence de Dieu dont ils voyaient de plus près le ciel, et justement, parce qu'ils s'aimaient, ils respectaient leur amour comme une divinité. Dès que l'aurore commençait à dorer faiblement les toits des maisons, Colombe, à grand regret, renvoyait son ami, mais comme Juliette renvoyait Roméo en le rappelant 10 fois. Ainsi se passait l'existence de Colombe dans la tête de la statue. Deux événements en troublèrent seuls le cours paisible, et ces deux événements furent les deux visites domiciliaires du prévôt. Une fois Colombe se réveilla en sursaut en entendant la voix de son père, ce n'était pas un rêve, il était là dans le jardin au-dessous d'elle, et Benvenuto lui disait « Vous demandez ce que c'est que ce colosse, monsieur d'Estourville, c'est la statue de Mars que sa majesté le roi François Ier a eu la bonté de me commander pour Fontainebleau, un petit bijou de 60 pieds, comme vous voyez rien que cela. » C'est fort grandiose et fort beau, répondit messire d'Estourville, mais passons, ce n'est pas cela que je viens chercher. Ce serait trop facile à trouver. Et ils passèrent. Colombe, à genoux, les bras étendus, avait envie de crier à son père, mon père, je suis ici. Le vieillard cherchait sa fille, il la pleurait peut-être. La pensée du comte d'Orbec, mais les projets odieux de madame d'Étampes, mais le souvenir de la conversation qu'avait entendue Ascanio paralysèrent son élan. Aussi cette sensation ne lui vint-elle même point à la seconde visite, quand la voix du hideux comte se mêla à celle du prévôt. « Voilà une étrange statue, et faite comme une maison, » disait d'Orbec, arrêté au pied du colosse. « Si elle résiste à l'hiver, les hirondelles pourront y bâtir leur nid au printemps. » Le matin même de ce jour où la seule voix de son fiancé causa une si grande terreur à Colombe, Ascanio lui avait apporté une lettre de Cellini. « Mon enfant, disait Benvenuto, je suis obligé de partir, mais soyez tranquille, je laisse tout préparé pour votre délivrance et votre bonheur. » Une parole du roi me garantit le succès, et, vous le savez, le roi n'a jamais manqué à sa parole. Dès aujourd'hui, votre père va s'absenter aussi. Ne désespérez pas, j'ai eu maintenant tout le temps qu'il me fallait. Je vous dis donc encore, chère fille, fussiez-vous sur le seuil de l'église, fussiez-vous agenouillée devant l'autel et prête à prononcer les paroles qui lient à jamais, laissez faire la fatalité, la providence, je vous le jure, interviendra à temps. Adieu, votre père, Benvenuto Cellini. » Cette lettre, qui remplit de joie Colombe en ravivant ses espérances, eut le malheureux effet d'inspirer aux pauvres enfants une sécurité dangereuse. Revenons donc à l'hôtel d'Étampes. Quand on demanda à Marmagne comment il était arrivé à cette précieuse découverte, il ne voulut rien dire et fit le mystérieux. La vérité était trop simple et laissait trop peu d'honneur à sa pénétration. La duchesse fit apporter sa litière. « La chose est restée à peu près secrète, » dit madame d'Étampes au prévôt. « Vous, d'Orbec, vous n'êtes pas homme, n'est-ce pas, à vous préoccuper d'une escapade d'enfants. Aussi, je ne vois pas ce qui empêcherait le mariage d'avoir lieu et nos projets de tenir. » « Oh, madame, » fit en s'inclinant messire d'Estourville enchanté. « Aux mêmes conditions, n'est-ce pas, duchesse ?» dit d'Orbec. « Sans doute aux mêmes conditions, mon cher comte. Quant au Benvenuto, continua la duchesse, coupable ou complice d'un rapt infâme, soyez tranquille, cher vicomte, nous vous en vengerons en nous en vengeant. » « Mais on me disait, madame, reprit Marmagne, que le roi, dans son enthousiasme artistique, avait pris avec lui, dans le cas où la fonte de son Jupiter réussirait, de tels engagements qu'il n'aurait plus qu'à souhaiter pour voir ses souhaits accomplis. « Soyez tranquille, c'est là où je le guette, » répondit la duchesse. « Je lui ménage pour ce jour-là une surprise à laquelle il ne s'attend pas. Ainsi reposez-vous sur moi et laissez-moi tout mener. » C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Il y avait longtemps que la duchesse ne s'était montrée aussi empressée, aussi active, aussi charmante. Sa joie éclatait malgré elle. Elle envoya en hâte le prévôt chercher ses hoquetons, et bientôt le prévôt, d'Orbec et Marmagne, précédés de ses gendarmes, arrivèrent à la porte de l'hôtel de Nesle, suivis à distance par madame d'Étampes qui, toute frémissante d'impatience et la tête sans cesse hors de la litière, attendit sur le quai. C'était l'heure du dîner des ouvriers, et Ascanio, Pagolo, le petit géant et les femmes se trouvaient seuls pour le moment au grand Nesle. On attendait Benvenuto que le lendemain soir ou le surlendemain au matin. Ascanio, qui reçut les visiteurs, crut à une troisième visite domiciliaire, et comme il avait reçu à ce sujet des ordres très positifs du maître, il n'opposa aucune résistance et les reçut au contraire avec la plus grande politesse. Le prévôt, ses amis et ses gens allèrent droit à la fonderie. « Ouvrez-nous cette porte, » dit d'Estourville à Ascanio. Le cœur du jeune homme se serra de je ne sais quel terrible pressentiment. Cependant, il pouvait se tromper, et comme la moindre hésitation était faite pour donner des soupçons, il remit sans sourciller la clé au prévôt. « Prenez cette grande échelle, » dit le prévôt à ses hoquetons. Les hoquetons obéirent et, guidés par messire d'Estourville, marchèrent droit à la statue. Arrivé là, le prévôt dressa lui-même l'échelle et s'apprêta à monter. Mais Ascanio, pâle de courroux et de terreur, posa le pied sur le premier échelon. « Que prétendez-vous, messieurs ? » s'écria-t-il. « Cette statue est le chef-d'œuvre du maître. La garde de cette statue m'est confiée, et le premier qui portera la main sur elle, pour quelque chose que ce soit, celui-là, je vous en préviens, est un homme mort. » Et il tira de sa ceinture un poignard mince et affilé, mais si parfaitement trempé que la lame, d'un seul coup, perçait un écu d'or. Le prévôt fit un signe, et ses hoquetons s'avancèrent contre Ascanio, la pique haute. Ascanio fit une résistance désespérée et blessa deux hommes, mais il ne pouvait rien contre huit, sans compter le prévôt, Marmagne et Dorbec. Il lui fallut céder au nombre. Il fut terrassé, garrotté, bâillonné, et le prévôt se mit à gravir l'échelle, suivi, de peur de surprise, par deux de ses agents. Colombe avait tout vu et tout entendu. Son père la trouva évanouie. En voyant tomber Ascanio, elle l'avait cru mort. Saisi à cette vue de colère plutôt encore que d'inquiétude, le prévôt chargea brusquement Colombe sur son épaule et redescendit. Et puis tous retournèrent au quai, les sergents d'armes entraînant Ascanio, que Dorbec regardait avec attention. Pagolo vit passer son camarade et ne bougea point. Le petit géant était disparu. Scotson, et seul, ne comprenant rien à ce qui se passait, essaya de barrer la porte en criant « Qu'est-ce que cette violence, messieurs? Pourquoi entraîner Ascanio? Quelle est cette femme ?» Mais en ce moment, le voile qui couvrait le visage de Colombe se dérangea, et Scotson y reconnut le modèle de la statue d'Hébé. Elle se rangea alors, pâle de jalousie, et laissa passer, sans plus dire une seule parole, le prévôt, ses amis, ces gens et ceux qu'ils emmenaient. « Qu'est-ce que cela signifie, et pourquoi avez-vous maltraité ce jeune homme ?» dit Madame d'Étampes en voyant Ascanio, garrotté, pâle et tout sanglant. « Déliez-le, déliez-le !»« Madame, dit le prévôt, ce jeune homme nous a opposé une résistance désespérée. Il a blessé deux de mes hommes. Il est complice de son maître, sans doute, et il me paraît urgent de le conduire en lieu sûr. » Oui, dit Dorbec à demi-voix à la duchesse, il ressemble si fort au page italien que j'ai vu chez vous et qui a assisté à toute notre conversation, qui, s'il n'avait pas un autre costume et s'il ne parlait la langue que vous m'avez assuré qu'il n'entendait pas, sur l'honneur, madame la duchesse, je jurerais que c'était lui. Vous avez raison, monsieur le prévôt, dit vivement la duchesse d'Étampes, revenant sur l'ordre qu'elle avait donné de rendre la liberté à Ascanio. Vous avez raison, ce jeune homme peut être dangereux, assurez-vous donc de lui. Au Châtelet, le prisonnier, dit le prévôt. Et nous, dit la duchesse, aux côtés de laquelle on avait placé Colombe, toujours évanouie, et nous, messieurs, à l'hôtel d'Étampes. Un instant après, le galop d'un cheval retentit sur le quai. C'était le petit géant qui courait à toute bride d'annoncer à Cellini ce qui venait de se passer à l'hôtel de Nesle. Quant à Ascanio, il entra au Châtelet sans avoir vu la duchesse et sans savoir la part qu'elle venait de prendre à l'événement qui ruinait toutes ses espérances.